Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro estival de Passion Logement. Pour une vraie politique du logement, c'est bien le sujet du jour, un sujet qui vous concerne tous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous toujours pour cette tribune avec le président de la Fédération de l'immobilier, la FNIM, Jean-Marc Torollion.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Jean-Marc ?
Très bien.
Voilà. Période estivale chaude à deux niveaux. Hein. Chaude parce qu'il fait très chaud et avec une actualité assez brûlante. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc Torollion, le premier sujet sur lequel je voulais vous interroger pour cette période estivale, avant les vacances, est-ce qu'on peut considérer que ce qui vient de se passer, vous avez établi un protocole avec les notaires, est une victoire ?
Non, parce que je ne vous souhaite pas le présenter comme ça, et ni du côté du notariat. En fait, ce qui vient de se passer, c'est un protocole de raison par rapport à un intérêt général que, à la fois, le Conseil supérieur du notariat, en la personne de son président, David Ambrosiano, et moi-même, considérons comme important. Et au fond, ce protocole, il traduit la volonté de sortir par le haut d'un conflit difficile, il y a eu deux conflits d'ailleurs, d'un conflit difficile et qui ne nous apportait rien respectivement. Par contre, ce protocole-là consacre malgré tout et avec un fort soutien du gouvernement le fait que nous avons bien une profession réglementée, nous avons bien des dénominations protégées et qu'un insigne vienne concrétiser ces dénominations assemblées naturelles également au Conseil supérieur du notariat, à condition, et on le comprend, qu'il n'y ait aucune confusion entre les symboles qui sont les leurs, officiers ministériels, ce que nous ne sommes pas, et l'insigne qui sera dorénavant le nôtre. Et je peux vous dire que...
Alors vous parlez d'insigne, donc on ne parle plus de caducé.
On peut dire caducé, mais c'est un insigne.
D'accord.
Hein, cas du CD,
l'insigne, cas le du modèle CD. De l'insigne a changé, Jean-Marc Torollion.
Le modèle de l'insigne a changé parce que nous nous sommes conformés à la décision de justice. Donc nous avons retiré tous nos recours, évidemment. Donc nous acceptons intégralement cette décision
de
justice.
Donc Vesta n'existe plus.
Donc Vesta existe toujours, mais pas sous sa forme 1, mais sous sa forme 2.
Sous sa forme
Et
2.
Ça, c'est très intéressant parce que ce symbole Vesta, vous savez que Julien Normandie l'avait tout soutenu, tout le monde le trouvait très bien, eh bien, il va perdurer. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà reçu 1 000 000 de précommandes nouvelles par rapport à celles que nous allons changer.
Oui, c'est plusieurs milliers, puisqu'il y avait déjà plus de
3 700.
Oui, 3 700, c'est énorme. Donc on peut dire effectivement que la sortie est positive, et elle est surtout constructive, parce qu'elle signe, elle scelle un rapprochement, on va dire, professionnel dans le sens de l'industrie immobilière, avec le Conseil supérieur du notariat.
Oui.
Donc finalement, les choses se sont réchauffées. Première victoire. Est-ce que...
Alors, je veux dire, pas victoire, parce que...
Non, mais quand on dit victoire...
Qui dit victoire dit forcément d'un côté un vainqueur, de l'autre un vaincu. Et c'est pas du tout notre état d'esprit. Okay. Par contre, c'est une victoire contre tous ceux qui ont douté.
C'est ça.
C'est-à-dire, comme toujours, hein, j'avais utilisé une formule, je sais pas, mais qui est de Churchill, qui dit « Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas, seule la volonté de continuer compte ». Eh bien, je crois que c'est la démonstration de ça, au fond. C'est-à-dire que nous avons repris ce dossier différemment et nous l'avons fait aboutir. Et si victoire il y a, c'est pas contre le Conseil supérieur du notariat, ça n'a pas de sens, c'est contre éventuellement tous les caciques et tous ceux qui doutaient, qui tous ceux peut-être se réjouissaient en sous-main du fait que la Fédération nationale de l'immobilier, qui avait mené un combat, avait été en situation d'échec, bah, ceux-là peuvent repartir, parce qu'au fond, ça, c'est la démonstration. Vous savez, on a une doctrine à la Fédération, je m'y suis toujours tenu. Hein. Moi, je protège les porteurs de cartes. Je n'insulte pas ceux qui ne sont pas porteurs de cartes. Nous sommes ceux qui avons donné une identité professionnelle aux trois métiers que sont syndic, administrateur de biens et agent immobilier, dont syndic, et ça va avoir son importance très prochainement à mon sens. Et nous donnons une identité visuelle, au fond, à cette protection. On le fait pour tous les indépendants, on le fait pour tous les titulaires de cartes professionnelles, et on le fait parce qu'on veut hiérarchiser aussi, vis-à-vis du grand public et des pouvoirs publics politiques, notre réglementation qui existe depuis plus de 50 ans.
Alors, les choses sont claires. C'est un symbole aussi qui correspond au fait que vous avez fait reconnaître dans la loi le titre d'agent immobilier, qui est quand même certainement pas neutre.
Agent immobilier, administrateur de biens et syndic.
Voilà, agent immobilier, administrateur de biens et syndic.
Et quand on pense à Matera, on commence à comprendre tout l'intérêt que nous avons eu également à faire en sorte que cette identité protégée porte ses fruits.
Alors, ce n'est pas un combat d'arrière-garde de faire protéger le titre. C'est le fait de faire reconnaître une profession par son excellence, sa formation, son processus. Est-ce qu'il n'y a pas, là, quelque part, un préambule, peut-être, à quelque chose qui sera un peu plus réglementé, peut-être donnant l'essence à peut-être un ordre dans le futur ? Pourquoi pas ?
Alors, moi, je suis très prudent sur la notion d'ordre. Pourquoi ?
Ouais, vous l'avez toujours été, d'ailleurs.
Parce que je ne crois pas... Si vous voulez, je rappelle toujours quelque chose de fondamental. La loi Huguet concerne les trois métiers. Ils sont unis dans cette loi. Si demain nous avons un ordre, je ne crois pas du tout que nous l'obtiendrons pour les agents immobiliers. D'ailleurs, je lisais avant de venir un positionnement de la Commission européenne qui demandait de rebalayer toutes les réglementations concernant les agents immobiliers pour voir s'il n'y avait pas trop de protectionnisme. Et donc on sent bien que le concept pour les agents immobiliers, l'approche est plutôt libérale. Et la chance que nous avons, nous, c'est que notre loi, finalement, a une réglementation forte. Si demain nous avons un ordre, je pense qu'on peut obtenir l'ordre pour les syndics. On pourrait peut-être l'obtenir pour les administrateurs de biens. Mais je ne crois pas qu'on l'obtienne, enfin c'est ma conviction, pour les agents immobiliers. Je ne sais pas même si c'est une nécessité. Parce que derrière ceux qui veulent un ordre, il y a souvent une forme aussi de protectionnisme. Et j'allais dire, de dire, on sera bien entre nous, la concurrence, bon, oui, mais pas trop. Vous savez, tout le monde est libéral, mais pas,
ah oui,
pas
bien, à fond. Bah, hein. Bien sûr.
Voilà. Et derrière l'ordre... Il faut y voir aussi des prérogatives à ce moment-là de contraintes publiques. On peut avoir un encadrement des honoraires, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc ça demande une réflexion. Mais cette réflexion, je pense qu'il faut, Sylvain, et vous avez raison, l'ouvrir. C'est pour ça qu'on fait un colloque au mois de septembre au Conseil fédéral de la FNIM pour savoir s'il faut réformer la loi Huguet. L'idée, c'est pas de dire réformer pour réformer. L'idée, c'est qu'une loi qui date finalement de 1970 à un décret de 1972, au fond... 50 ans que ça dure, et c'est pas mal, est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou pas, et dans quel sens ? Et là, on va ouvrir cette réflexion.
Il y en a eu, puisque la loi a subi plusieurs retoilettages qui permettent de le faire. Mais alors, juste pour bien comprendre, il n'a échappé à personne qu'il y a aussi des segments de marché de distribution pour la transaction immobilière. Je fais allusion notamment aux mandataires immobiliers. Il n'y a plus de débat en ce qui concerne les mandataires immobiliers. Est-ce qu'un jour, il y aura effectivement quelque chose qui va regrouper l'ensemble des segments représentant la distribution, donc la transaction immobilière, mais pourquoi pas aussi le syndic et la copropriété ?
Écoutez, on travaille
Quel serait l'instrument, Jean-Marc Torollion, à terme, pour avoir une digne représentation de l'industrie immobilière ?
Alors, pour moi, je souhaite que soit distinguée la représentativité des agents commerciaux de celle des titulaires de cartes professionnelles.
Pour quelle raison ?
Parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, la capacité qu'ont les titulaires de cartes professionnelles. Ils ne peuvent pas créer leur entreprise au sens de la loi Huguet. Donc je souhaite cette segmentation-là. Nous y travaillons.
C'est très clair.
On a fait un rapport. Est-ce que cette segmentation doit trouver une émergence au sein des syndicats de la branche loi Huguet ? La réponse est oui, mais en autonomie. Parce que, encore une fois, nous sommes très attachés à la distinction entre titulaires de cartes professionnelles et collaborateurs habilités, ce que sont aussi bien certains salariés chez nous, par exemple un chargé d'immeuble en copropriété, même un VRP négociateur, et ce que sont également l'ensemble des auto-entrepreneurs mandataires qui travaillent dans la branche. Donc moi, je souhaite cette segmentation. C'est un débat qui, d'ailleurs... ne concerne pas que la FNIM ou que la branche immobilière.
Oui, mais bien sûr.
Il y a un débat qui est en train d'agiter entre le MEDEF et le
CNE. Oui, sur les travailleurs non salariés, modèles d'exploitation. Mais prenons un exemple, par exemple, 8000 adhérents d'agents commerciaux à la CNASIM, par exemple, qui représentent les agents immobiliers. Est-ce que c'est...
Non, ils ne représentent pas les agents immobiliers.
Non, qui représentent, pardon...
Attention, Sylvain.
Pardon, vous avez raison. Vous avez raison. C'est à ça que sert finalement l'inscription dans la loi. C'est de ne pas faire distinction.
Oui, comme quoi. Personne ne l'a vu venir, mais c'est redoutable. Voilà.
Donc, vous avez raison. C'est la preuve par l'exemple. Vous avez raison de me retoquer là-dessus. Justement, la CNASIM, qui est une chambre syndicale, qui représente les agents commerciaux.
Oui.
Est-ce que c'est un interlocuteur peut-être potentiel pour vous ?
Oui.
Ça fonctionne plutôt bien.
Bah, en tout cas, on a dialogué, notamment sur le statut éventuel, un changement de statut des agents commerciaux.
Que vos adhérents ont beaucoup d'agents commerciaux comme collaborateurs.
On va être très clair, je pense que nous avons 12 000 agents commerciaux dans nos rangs. Quand même. On en a déjà recensé un peu plus de 7 000 et on n'a pas fini ce recensement. Et pour être très clair, 48% de nos adhérents n'ont que des agents commerciaux, n'ont pas de salariés. D'accord. Une partie a les deux et puis une autre partie n'a que des salariés. Mmh. Donc, on utilise bien évidemment les agents commerciaux. Et je vois même des agences aujourd'hui immobilières indépendantes, de petite taille, recruter des agents commerciaux, même à temps partiel, même en double activité, ce qui est très nouveau. Et je discutais d'ailleurs avec...
Il n'y a pas un risque de requalification, là ?
Non. À temps partiel, quand je dis à temps partiel, c'est en activité partielle.
En activité, oui, d'accord. Okay.
Elle ne pourrait provenir que d'une confusion entre le statut de salarié. Et au fond, c'est très surprenant. C'était plutôt pas la philosophie de la FNIM. Donc, c'est pour ça que... Moi, j'observe, je préfère observer mes entrepreneurs avant de dicter des dogmes.
D'accord.
Même si sur certains fondamentaux, nous n'y reviendrons pas, et je les ai énoncés.
C'est clair.
Parce qu'on voit que l'agilité est là, que l'innovation est là, que des jeunes entrepreneurs innovent différemment, et il y a de la place pour toutes les convictions au sein de ce métier.
Très clair. Arrêt de la Cour de...
Pardon. Je suis plus inquiet pour peut-être demain l'administrateur de biens ou même le syndic. Le phénomène des auto-entrepreneurs, il risque d'être dans des branches de métier que l'on n'imagine pas,
oui,
bien sûr.
Sauf qu'il faut quand même un peu de matériel pour administrer, pour avoir un peu de compétences aussi,
oui,
quand même.
Oui, mais...
Alors, question qui a été posée et qui est donc la jurisprudence a donné une réponse pour l'instant définitive. Vous avez toujours été, Jean-Marc Torollion, depuis que je vous connais, attaché à cette fonction, je ne vais pas dire entre guillemets auxiliaire du droit, je prends les éléments, sur la prérogative qu'ont les agents immobiliers de signer les avant-contrats, d'accord, les compromis de vente. Pour vous, c'est hyper important. Vous le faites dans votre groupe, vous l'avez fait dans votre groupe, vous avez formé vos collaborateurs, vous êtes un expert en la matière. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 vient changer radicalement la chose. En fait, concrètement, lorsqu'on signait une promesse de vente, le premier temps pouvait, si jamais il ne voulait pas aller au bout, avec un peu de dommages et intérêts, se retirer de la vente. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est plutôt un bon... Ça plaide vachement dans votre sens,
alors,
avec la position que vous avez prise.
Alors,
qu'est-ce que vous...
En fait, donc, effectivement, nous avons, en qualité justement de porteur de carte professionnelle, nous sommes habilités à rédiger aussi bien d'ailleurs des baux commerciaux que des baux d'habitation à titre accessoire de nos mandats, que des compromis ou des promesses. Et donc, il y a deux types d'avant-contrats aujourd'hui en vigueur en France. Le compromis, qui est une promesse synalagmatique, qu'elle est croisée, donc elle est définitive dès lors que les conditions suspensives sont levées. Et la promesse unilatérale de vente, et qui permet à un bénéficiaire de lever cette option. Et le fait que la Cour de cassation... empêche le promettant de se désengager pendant cette période où l'option n'est pas levée, finalement, elle a un double effet. La première effet, c'est qu'elle rapproche singulièrement la promesse du compromis. Je vois pas trop l'intérêt pour un vendeur aujourd'hui de signer finalement une promesse plutôt qu'un compromis, puisque le compromis engage immédiatement l'acquéreur.
Mais oui.
La deuxième chose qui est intéressante vue du côté métier, c'est que finalement, le désengagement d'un vendeur, dans une période où on est dans un marché extrêmement tendu, c'est toujours une source de fragilité si jamais il a une surenchère ou des choses comme ça. Donc j'ai presque envie de dire, c'est presque l'arrêt de la Cour de cassation est quasiment anti-inflationniste, si je puis dire. Et donc, ça sécurise, à mon avis.
Anti-inflationniste, ça veut dire que ça empêche, finalement, le promettant, entre guillemets, de surenchérir ou de spéculer sur le prix du bien. Quoi.
Voilà.
C'est vachement bien.
Et donc, pour moi, c'est plutôt bien.
Pour l'acquéreur.
Et pour l'acquéreur, c'est très bien, évidemment. Parce que, aussi bien du côté compromis que du côté promesse, finalement, il est sécurisé par rapport à l'engagement définitif ou quasi définitif, sauf accident, de son vendeur. D'autant que très souvent dans nos compromis de vente, nous faisons renoncer le vendeur à la faculté de se désister en versant une indemnité égale au dépôt de garantie, au séquestre qu'a versé l'acquéreur. On oublie tout souvent cette fonction-là dans le séquestre. Donc voilà, c'est effectivement, j'allais dire, un rapprochement entre ces deux types de contrats.
Est-ce que vous dites aux agents immobiliers « continuez à séquestrer » ?
Oui.
Vous l'avez toujours dit, ça. D'accord. Donc, et continuez à signer les compromis, on est d'accord, à rédiger les compromis et les baux. D'accord. Si un jour, par exemple, les modèles, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ou beaucoup, même certains agents immobiliers ne veulent plus rédiger, font faire ça par un notaire, un avocat, parce qu'un avocat aussi peut le faire, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est vrai, c'est le début de la fin, quelque part. Vous, symboliquement, vous dites, il y a quand même une pierre angulaire dans tout cela, vous l'avez souvent dit. Vous parliez d'auxiliaire du droit, souvent, vous savez, en termes d'analogie.
Oui, mais je dis.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux agents immobiliers qui nous écoutent ?
Ce qu'il faut dire aux agents immobiliers, c'est que la faculté que nous avons de pouvoir rédiger, c'est une exception par rapport à la réglementation des professions de droit. Et donc, cette exception-là, soit nous la cultivons, soit nous la perdrons.
D'accord.
Mais qu'il ne se fasse aucune
Quand
illusion.
Quand vous dites exception, c'est presque une prérogative.
Et donc, c'est une prérogative du titulaire de carte professionnelle. Et donc, attention, parce que le fait de l'avoir, finalement, c'est dans nos schémas de valeur, un schéma additionnel. Et je crois que la respectabilité de cette profession, elle passe par la capacité de rédaction. Et d'ailleurs, on voit bien que même chez certains nouveaux modèles, la rédaction est un dogme. Même chez des modèles qui cultivent par ailleurs, dans certains markets inter, beaucoup d'agents commerciaux. Donc je crois qu'il faut vraiment, garder cette prérogative-là, parce que, évidemment, on peut la sous-traiter. On peut la sous-traiter...
Elle l'est largement.
À mon avis, pour près de 65% des confrères.
Exactement.
On peut la sous-traiter aux offices notariaux, mais je pense même que demain, ce n'est pas les offices notariaux, il y aura des plateformes de sous-traitance, d'ailleurs, il y en a quasiment déjà qui existent.
Mais bien sûr.
Hein, des plateformes de sous-traitance, qui peuvent émaner d'ailleurs de clercs de notaire, ou qui peuvent émaner...
Exactement.
Des plateformes de sous-traitance qui pourront faire du compromis à la chaîne. Je veux bien. Mais n'oublions jamais que dans la chaîne de la valeur ajoutée que nous avons, si on commence à sous-traiter la visite et si on commence à sous-traiter la rédaction, je pense qu'il ne va pas rester grand-chose.
Non, voilà. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, et très honnêtement, je soutiens à fond votre démarche, parce que vous ne pouvez pas faire inscrire le titre d'agent immobilier sans y avoir les aspects corrélatifs, et notamment ses prérogatives, donc, que vous venez d'indiquer. Le compte séquestre, la relation avec les acquéreurs et les vendeurs dans le cadre d'un protocole scénarisé, presque solennel. Parce que le compromis, on ne le signe pas comme ça, la va-vite, sur un coin de table. Vous les recevez, les parties.
Le compromis...
Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient aussi du rituel, dans l'acquisition ?
Le compromis, d'abord, enfin, moi qui
quand j'étais chez vous dans vos agences, je voyais un espace où les clients arrivaient,
reçus... C'est un moment de convivialité, et c'est surtout un moment de convivialité, mais c'est aussi un moment de finalisation de notre travail de négociateur. Moi, la négociation, négocier, c'est noble, mais c'est noble que si la finalité arrive au contrat. Trop souvent, mes amis notaires me disent on est obligé de finir les négociations quand on fait signer les promesses ou les compromis. Alors que quand l'agent immobilier fait signer sa promesse et son compromis, puis l'envoie aux notaires qui auront été désignés par les parties, c'est une négociation en principe totalement achevée. C'est-à-dire qu'on remet un travail propre.
C'est clair. Merci. Dernier point, il nous reste 3 minutes, ça y est, c'est fait, loi adoptée. Climat et résilience, volet logement de l'article 39 à 44. Par le détail, Jean-Marc Torollion, quel impact a cette loi dans l'industrie aujourd'hui immobilière et comment vous voyez ces applications ?
C'est parti, c'est-à-dire qu'au fond, on a déjà les premières remontées des DPE, des nouveaux diagnostics de performance énergétique, et les sanctions sont sévères.
Voilà. Dont on rappelle d'ailleurs le DPE qui est devenu opposable à partir du 1er juillet.
Je rappelle que 40% des biens vont changer de classe. Je rappelle que les biens G sont interdits au 1er janvier 2025.
C'est incroyable que les gens ne réagissent pas plus Jean-Marc Torollion.
Ça va réagir. Et les E en 2034. Je rappelle l'essence de cette loi. On avait demandé 2040, c'est 2034. Point important toutefois, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience réelle du législateur au dernier moment. Je pense sous l'impulsion peut-être du Sénat, mais avec un accueil positif
donc
du gouvernement.
FG 2025.
Point important, en 2027, on se pose pour faire un bilan. C'est-à-dire que ce qu'a prévu le législateur au fond, c'est de dire on a conscience qu'on est hyper ambitieux, on a conscience qu'on n'a pas peut-être mesuré tous les effets de bord, et on donne en 2027 le pouvoir de revenir peut-être ou d'avoir des moratoires. Alors quand je dis ça, attention, il ne faut pas rêver. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de moratoire sur les F et G. Mais on a conscience que l'industrie de la rénovation se met en place en parallèle, qu'il y a des coûts associés qui sont importants. Et surtout, ce qui est aussi très important, c'est que nous avons un enjeu d'aide qui n'est absolument pas finalisé post-2022. Et je regrette de ce point de vue-là que les deux mesures que le Sénat avait adoptées, c'est-à-dire le fait d'avoir un doublement du plafond du déficit foncier imputable sur le revenu et le fait d'étendre le De Normandie dans l'ancien dans toutes les reventes de FSG, n'aient pas été finalement retirées à l'aune de cette commission mixte conclusive, paritaire mixte conclusive. Mais donc, nous avons un rendez-vous important à la PLF à l'automne 2022 là-dessus.
Alors justement...
Je finis aussi. Oui. DGT simplifié est important. Une mesure qui a soutenu l'UNPI, d'ailleurs, et que nous avons soutenu
DGT
également.
DGT simplifié. DGT, diagnostic.
Diagnostic global technique est obligatoire à compter du 1er janvier 2024, ou en tout cas un audit. Mmh. Et parce que toutes les copropriétés vont devoir se doter, vont devoir élaborer un plan pluriannuel de travaux. Et pour les immeubles de plus de 200 lots, ça va arriver très vite, au 1er janvier 2024.
Exact.
Avec un diagnostic de performance énergétique collectif, obligatoire également au 1er janvier 2024 pour les plus de 200 lots. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite dans l'organisation de la copropriété. Et je voulais vous dire également que le congé pour rénovation énergétique pour un bail a été adopté. C'est-à-dire que vous pouvez donner un congé pour vente.
Ou un congé pour rénovation.
Vous pouvez donner un congé pour reprise pour habiter ou un congé
pour
rénovation énergétique. Et ça, c'est important parce qu'on sait que dans certains biens, en milieu occupé, c'est impossible.
Pour une vraie politique du logement, Jean-Marc Torollion, vous avez toujours défendu le logement des Français. On est d'accord là-dessus. Est-ce que quand on vous dit qu'en 2025-2028, les lettres F et G, ça représente un tiers du parc locatif privé, c'est vrai ?
Ça représente 1,7 million de logements. Oui. Sur les 7,3 millions.
Permettez une question ?
Oui.
Où est-ce qu'on vont se loger les Français s'il n'y a pas une compensation quelque part ?
Bien évidemment, on a attiré l'attention là-dessus.
C'est un sujet, là.
En plus, je veux dire, les Français vont...
Je mets de côté le logement social, j'en parle pas.
On est bien d'accord, même s'il est concerné. Parce qu'il n'est pas forcément plus vertueux que nous en la matière.
Je mets l'offre de logement social à part volontairement. Dans le parc privé, ça représente 1,7 million de
logements.
Il manque déjà 1 million de logements en France, grosso modo.
Le risque est important, effectivement.
Qu'est-ce qu'on fait pour les Français ? Voilà,
parce que qu'est-ce qui peut se passer au fond, c'est qu'au 1er janvier 2025, 1,7 million de logements sont considérés comme indécents. C'est quoi la sanction ? On ne peut plus augmenter le loyer, d'accord ? Le locataire pourrait faire un procès.
Mais on ne peut plus louer.
Et on ne peut plus louer. Donc, c'est la période de l'été. Moi, j'invite nos auditeurs, quand on se balade dans nos villes et villages, à regarder la typologie de nos immeubles dans ces villes et villages, qui sont des typologies années 20, années 30.
Exact.
Et je crois qu'on... Cette loi, elle a été faite pour les immeubles construits entre 1955 et 1980. Elle n'a pas été faite pour les immeubles qui sont construits avant-guerre ou, j'allais dire, juste après-guerre.
Donc.
Et je pense que c'est là, il y a un cœur, si vous voulez, d'immobilier qui est, à mon sens... qui n'a pas été pris en considération
pour sa réalité.
Mais qu'est-ce
qu'on fait ? On détruit, on reconstruit ?
Alors, on peut détruire et reconstruire, mais enfin, il va falloir demander aux propriétaires concernés leur avis,
oui,
évidemment.
Parce que vous savez qu'il y a des cœurs de ville aujourd'hui, on ne peut plus rénover par l'extérieur, c'est interdit, notamment à Paris.
Ah, mais il va falloir trouver
les solutions. Emmanuel Grégoire a été très, très clair, le premier adjoint à la mairie de Paris, en disant, je vous le dis très clairement, dans Paris, il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur, ou à la marge, mais vraiment à la marge.
Oui, mais il y a une dérogation pour des raisons architecturales.
Oui,
mais le paradoxe, finalement, le paradoxe, c'est que le Français qui a sa petite maison années 30,
il va devoir
rénover, mais que le propriétaire d'un immeuble haussmannien dans le 8e aura une dérogation.
Bien sûr.
Il va falloir faire attention dans le maniement de ce concept-là.
Okay. Mais c'est un vrai sujet.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le logement des Français, Jean-Marc Torollion ? Où est-ce qu'on va loger tout le monde ? C'est demain, 2025.
Alors, écoutez, moi, on a quelques propositions. La première...
Les permis de construire, vous le savez, ne sortent pas.
Oui,
il y a un stock qui est dramatiquement bas, comme on fait. Vous l'avez dit au...
Oui. Moi, je pense que déjà, il faudrait modifier les plans locaux d'urbanisme pour qu'on ait une densité minimum de construction et non plus maximum. C'est-à-dire qu'on impose, en fait, parce qu'on a gaspillé énormément de foncier. Il n'y a aucun permis aujourd'hui, alors les promoteurs n'osent pas trop le dire, mais enfin, il n'y a aucun permis aujourd'hui qui sort avec la pleine densité utilisée, permise dans les plans locaux d'urbanisme.
Oui,
c'est
parce
pas normal.
Parce qu'ils ne passent pas.
Ben, justement, donc si on impose une densité minimum,
ouais. D'accord.
On permettrait malgré tout une densification. Je crois qu'il y a malgré tout tout un schéma d'aide à mettre en place. MaPrimeRénov à reconduire, les C2E à conforter, aider les bailleurs à l'aune de ce que je viens de proposer. Et vraisemblablement, les délais devront être allongés pour permettre à l'industrie du bâtiment de s'organiser. Mais moi, si j'ai un appel à dire aujourd'hui, c'est les maires. J'invite les maires à prendre en considération la réalité du patrimoine de leur commune et de leur classement, parce que c'est une vraie priorité pour eux. Parce que si demain, ils ont 60% des logements qui sont classés F ou G, ben je m'interrogerai.
Ah oui, c'est clair. Merci Jean-Marc Dorolion. Il nous reste une dernière minute vraiment pour donner le calendrier, l'agenda dans cette période estivale, à la rentrée où il y a ce colloque, hein, le fameux colloque, et puis il y a aussi le congrès qui se pointe aussi à la raison.
Et le congrès le 29-30 novembre au Louvre et au Carrousel du Louvre, avec un premier et un troisième jour exclusivement digital. Et ce congrès sera éminemment politique.
Voilà, éminemment politique, dans une période, on l'aura compris, qui précède les présidentielles. Ça va vous faire encore une belle année, Jean-Marc Dorolion.
Voilà, je reste motivé.
À venir. Voilà, toujours un plaisir de vous avoir. On se retrouve en septembre pour la prochaine tribune de Passion Logement, pour une vraie politique du logement. Je vous invite à aller sur le site de la FNIM, qui œuvre au quotidien pour vous, les professionnels, mais aussi pour les usagers, car c'est la pierre angulaire de notre marché. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un bel été, Jean-Marc Dorolion.
Un bel été à tous vos auditeurs, un bel été à vous Sylvain.
Voilà, prenez soin de vous.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Dorolion.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonces immobilières nouvelle génération.